RMC entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, c'est une finale de top 14 historique que nous avons vécue au Stade Vélodrome, une finale de championnat de France tout court d'ailleurs, historique, au-delà du top 14, toute époque confondue depuis plus d'un siècle. Jamais il n'y avait eu un tel écart entre deux équipes finalistes. Le Stade Toulousain a battu, fracassé, éparpillé façon puzzle l'Union Bordeaux-Bègles 59 à 3. Record de points, record d'écart, record d'essais. 9 autos dans une orgie de jeu qui a époustouflé les observateurs. Et le Stade Toulousain s'offre donc un troisième doublé dans son histoire. Après 1996 et 2021, les Toulousains sont seul au monde. On va donc revenir sur ce match de dingue, voir comment les coéquipiers d'Antoine Dupont ont surclassé dans tous les secteurs l'UBB, leur plan, les hommes forts, la saison de tous les records pour ce club qui vient de gagner un 23e bouclier de Brennus. En face, on ne pourra que constater que le plan n'a pas marché. Faire revenir Tammy Founaï Jalibert est un échec. Les Bordelais ont fini en lambeaux et si ça n'enlève rien à leur très belle saison, il va falloir se relever de tout ça. On écoutera les meurtries de la finale. Eux, ils ne sont pas meurtris, ils sont juste choqués, peut-être un peu fatigués aussi. Ce sont nos poteaux du jour, nos poteaux du bouclier. Fatigués, j'ai entendu fatigués. Ça vient du 34 de Montpellier, ça vient de Julien Landry. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Alors j'ai prévu de dire bonjour à Winnie d'abord dans mon conducteur. Attention, parce que là, faut sauter d'un truc à l'autre.
Non, mais
Winnie, elle a évité les festivités à Bordeaux. Elle était potentiellement prévue pour les festivités à Bordeaux. Bonjour Winnie.
Et bonjour à tous.
Eh bien non, c'est dommage.
Je sais pas, c'est dommage pour Bordeaux, bien sûr. Pour moi, un peu moins.
Et Julien, qui aura vécu, lui, les deux sacres Toulousains cette année, à Tottenham et au Vélodrome. Une préférence?
Tant que je vais pas au Capitole, ça me va.
Ça, c'est pour moi. Allez, c'est pas les mêmes matchs entre Tottenham et le Vélodrome, mais la même issue. Le rugby est un sport qui se pratique à 15 et à la fin, c'est Toulouse qui gagne. C'est le dernier épisode de ce top 14 et vous le vivez sur RMC. Le coup d'envoi de ce match, c'est parti à l'instant. Dupont qui renverse, qui va au ras, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il est arrêté,
essai
d'Antoine Dupont. Oh là là, Dupont, c'est incroyable, Dupont le coup de pied assis. Quel essai, quel essai magique. Quel essai magique côté Toulousain. Ça repart avec Graou, ça ne s'arrête jamais. C'est pour Ramos. Est-ce qu'il a marqué? Essai. Nouvel essai. Oh là 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 là, quel rugby les Toulousains. Aura, on est à 5 mètres face au poteau. Il en prend de tout les Toulousains. Il en prend de tout et ça va aller à l'essai. 8e essai. Attention, il travaille Capozzo, il remet les jambes. Il va y aller ou pas? Capozzo, essai. Le 9e essai Toulousain. En quoi? C'est une orgie, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Un essai de 100 mètres, c'est terminé. Jamais rassasié. Après une 6e Champions Cup, le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus. Oui, ça m'avait échappé, Winnie, ton extase sur l'essai d'Antoine Dupont.
Écoute, ouais, c'est juste qu'on a reconnu des gestes qu'il nous avait montrés à 7 Vancouver, Los Angeles ou à Madrid. Donc voilà, ouais. C'est juste qu'il est capable de tout faire, de transposer ses skills du 15 au 7, du 7 au 15. Voilà, c'est beau.
59 à 3. Jamais on n'aurait pu imaginer un tel score entre Toulouse et l'UBB. Quelle impression, quel goût ça vous a laissé, Julien?
Choqué déjà de voir le score. Soyons honnêtes, depuis qu'on s'est retrouvé à Marseille pour préparer cette finale, on a longtemps dit on voyait pas comment Bordeaux pouvait rivaliser avec le Stade Toulousain. On avait fait le fameux jeu de Philippe Saint-André de savoir quels joueurs on choisissait dans l'équipe et on avait quand même choisi une grande majorité
de départ,
dans un 15 de départ, on avait quand même choisi une grande majorité de Toulousains, même si quelques Bordelais avaient réussi à se faire leur place. Mais oui, on s'imaginait que les Toulousains allaient conquérir un 23e sacre, mais jamais personne n'avait imaginé un succès dans de si grandes largeurs. C'est époustouflant de maîtrise, de puissance, ce qu'ont été capables de faire le Stade Toulousain ce vendredi soir.
T'es choqué, Winnie, aussi?
Oui, c'est surtout qu'on ne sait plus quoi trop en penser, finalement. On se demande si c'est Toulouse qui a été stratosphérique ou si c'est l'UBB qui a failli dans tous les secteurs de jeu hier soir. Et oui, un peu des deux. Alors, c'est ce qui explique sans doute cet écart historique en finale de top 14. Mais Mais ça, moi, j'en reste pantoise. Mais des deux, de part et d'autre, c'est-à-dire que ce qu'on a vu, les essais, ils étaient tellement divers en termes de style d'essai, de type d'essai. Et de l'autre côté, il y a tellement rien eu en termes de jeu produit, en termes de défense, que c'est difficile, je trouve, de tirer une conclusion à cette finale, d'essayer de résumer ce qui s'est passé hier sur la pelouse du Vélodrome.
On le devine rapidement, pour vous, à 22-3, Julien, à 22-3, c'est fini ?
Vu l'expérience d'un côté, le talent...
Enfin, alors, voilà, je pense que l'essai de... finalement, ils s'en sortent presque bien, les Bordelais, de ne pas prendre cet essai sur la sirène. Ça peut faire 29 et que là, vraiment, à la mi-temps, on se dit que c'est définitivement fini.
Oui, on va qu'à laisser refuser.
Ouais, 22-3, tu te dis dans les retours au vestiaire, ils ont peut-être mal géré ce que d'ailleurs dit De Porter, on est en train de se chier dessus, on passe à côté, il faut remettre l'intensité. Tu peux te dire qu'à la mi-temps, le discours peut-être de Yannick Bru, si tu arrives à marquer rapidement sur le retour des vestiaires et que peut-être que Malia, plutôt que pas être sanctionné, il prend un jaune. Il aurait fallu évidemment beaucoup de circonstances pour que ce match existe. Et puis, il y a 20 minutes en fait, de deuxième mi-temps, début de deuxième période, où il ne se passe rien en fait. Il y a la pénalité de Ramos, ils arrivent
à
25-3,
ça grappille quand même.
Oui, mais voilà, ils arrivent, ils prennent les points, en plus les Toulousains d'entrée, parce que tu sens qu'ils veulent vraiment leur mettre la tête sous l'eau. Et puis pendant 20 minutes, Bordeaux ne fait plus rien, et Toulouse c'est dans la gestion, et puis d'un coup c'est le pop-corn quoi. D'un coup, en un quart d'heure, ça a explosé de toutes parts, et puis plus les Toulousains explosaient, plus les Bordelais lâchaient, donc ça a fini dans des grandes largeurs, mais... À 22-3, on avait toujours un petit espoir, même si ce que nous avaient laissé entrevoir les Bordelais sur les 40 premières minutes laissait guère de doute sur l'issue de cette rencontre-là.
Non, ce qui est plus étonnant, c'est le fait que Bordeaux était incapable, ne serait-ce que d'aller mettre un essai ou d'être un petit peu plus dangereux. Trois points. J'ai regardé dans la liste des finales du championnat de France, on n'avait plus vu une équipe marquer si peu de points en finale de championnat de France depuis le Agen-Tarbes en 1988. Où Agen s'était imposé 9-3.
Ouais, 9-3. Ouais.
Non, mais c'est juste que c'est étonnant de voir une équipe comme Bordeaux qu'on annonçait flamboyante et qu'on annonçait justement une finale flamboyante parce qu'on avait deux attaques stratosphériques cette saison et de voir que Bordeaux n'a mis que 3 points par le pied de Maxime Lucu.
L'UBB. Ah, derrière Toulouse. Hein.
C'est incroyable.
8 essais et l'UBB c'était 83 dans la saison. Ah bah ça dit de la férocité de la défense toulousaine. On va y revenir, mais ils sont quand même reconnectés les Toulousains par rapport à la demi-finale. C'est vrai que finalement, ça vient de me traverser l'esprit. C'est peut-être les Rochelais qui ont aidé les Toulousains à être champions de France parce qu'ils ont envoyé un petit coup de klaxon.
Et ils l'ont dit d'ailleurs, les Toulousains, hier.
On se le disait, Julien, tu disais, on a préparé cette finale ensemble à Marseille, on se disait, pas deux fois pour les Toulousains peut-être, de faire les mêmes erreurs.
Non, mais c'est sûr que, après, n'oublions pas que cette équipe-là n'avait pas joué depuis le Leinster. Hein. Finalement, oui. Ils avaient laissé au repos Hugo Mola et qu'il y avait aussi une question de rythme. Après, moi, c'est ce que je te disais. Je pense que le scénario du match contre La Rochelle fait aussi que les Toulousains n'ont pas forcément mis l'implication qu'ils voulaient. Le carton rouge d'Atonio au début de deuxième mi-temps, même s'ils se font concasser un peu devant, on peut imaginer que sur la fraîcheur des Toulousains, ils auraient quand même réussi à peut-être passer l'obstacle Rochelet, même sans les faits de match et les cartons. Parce que cette équipe-là, elle est quand même... on en parlera tout à l'heure, mais... En réfléchissant dans des équipes qui ont pu marquer le championnat, une équipe qui est aussi dominante.
Attends.
Non, mais c'est pour ça, en réfléchissant. Donc, c'est pour ça que je me dis que le scénario du match contre La Rochelle fait aussi qu'ils avaient peut-être. Ils ont peut-être un peu lâché aussi contre La Rochelle et qu'on aurait pu penser que malgré tout, ils auraient fini par passer l'obstacle Rochelet.
Alors, c'est parti, on fait l'artifice, mais un plan toulousain était bien prévu stratégiquement. Il a marché, on a eu la confirmation dans la bouche de l'arrière Thomas Ramos.
Je ne sais pas si on a tout tenté, en tout cas je pense que ce qu'on a fait c'était propre, c'était carré, c'était ce qu'on avait envie de faire, c'était ce qu'on avait préparé. On marque sur des lancements qu'on avait ciblés pour ce match, on marque avec des actions qui sont à l'image de notre jeu, de notre saison. Donc on a quand même forcément sur certains essais la petite passe, le petit rebond qui nous va, mais quand on provoque, j'ai envie de vous dire c'est forcément, ça va forcément dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait forcé notre jeu à vouloir chacun faire la sienne. Je pense que collectivement on a été très bon et c'est ce qui a permis qu'on gagne ce soir.
On l'a vu, bon, déjà la défense à chaque fois, Toulouse, parce qu'il y a eu l'attaque, mais avant Bordeaux c'est usé sur la défense. C'est souvent les mêmes recettes à Toulouse.
Non, mais évidemment on a tout. toujours tendance à louer ce jeu d'attaque des Toulousains, parce que bah, évidemment 60 points, n'oublions pas qu'il laisse 13 points au pied en route, hein. Le score aurait pu être à 72 hier soir, hein, sans une défaillance limite derrière les perches. Non, mais c'est vrai qu'il y a 13 points laissés en route par les Toulousains, Ramos, Kingord, Ntamack à la fin, le score est plus lourd, mais c'est comme contre le Leinster, on en est toujours ébloui par cette capacité que les Toulousains ont à accélérer, mais contre le Leinster, ils ont détruit les Irlandais au sol, c'est quand même un truc très fort, et hier contre les Bordelais, il y avait une défense qui était remarquable, et même Yannick Brune reconnaissait dans l'impact.
Ils se sont cassés les dents
sur ce mur toulousain qui est remarquable d'efficacité. On n'en parle pas assez.
C'est ça.
Ouais. Mais la qualité de la défense toulousaine, elle est remarquable. Elle est remarquable.
C'est l'acharnement qu'ils ont. Il n'est pas qu'offensif, il est aussi défensif.
Je me revois cette scène où Romain Ntamack, en deuxième mi-temps, là, il va se jeter dans les pieds.
Ouais, devant la
presque
tribune,
en planche.
Là,
devant la tribune, ouais. Il va en planche, là, il se jette. Alors que le score est déjà fait, qu'il n'y a quasiment plus rien à jouer. Mais ça prouve aussi qu'ils ont voulu vraiment rien lâcher. Et puis. Le symbole, c'est aussi cette dernière action où le match est plié, il y a 54-3 et que les Bordelais sur le baroud d'honneur veulent aller marquer cet essai pour sauver l'honneur et les Toulousains veulent absolument pas l'encaisser et en plus ils relancent de 100 mètres pour aller marquer le dernier essai.
Relance du parking du Vélodrome.
Ouais, mais c'est le symbole de pas vouloir craquer non plus au dernier moment en se disant et jusqu'au bout on n'encaissera pas en plus d'essai quoi.
Ouais, justement, Winnie. Pour rendre hommage à un confrère, est-ce qu'il y a un essai qui t'a plus marqué l'un que l'autre ?
T'as pas aimé cette question posée par l'un de nos confrères hier
c'est
soir.
C'est normal. C'est
au
une
Bordelais.
Question honteuse.
Elle était un peu honteuse, malvenue. En tout cas pour les Bordelais.
Non. Enfin bon. Elle n'était pas voulue comme ça et bon, c'est les coulisses. Elle a été posée à Maxime Lucu et Maxime Lucu a cru
c'est dur.
Que notre confrère parlait de l'essai d'Antoine Dupont. Et il a dit allez-y, dites-le-moi. Et c'était pas du tout ça en fait. Mais donc c'est un quiproquo et voilà. Ouais. Donc c'était juste un petit hommage. voilà. Mais quand même, justement, Julien, il parlait de ce symbole de relancer de l'embut à la 81e. Quoi.
Ouais, c'est... Ouais. Et avant ça, le deuxième essai de Thomas Ramos à la 74e minute, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'ils avaient encore le jus pour aller marquer dans un chaos complet. Parce que ça part d'un en avant volontaire. Alors, je ne sais plus quel est le Bordelais qui, dans ses 5 mètres... C'est Penaud qui touche le ballon. Ouais. L'attaque toulousaine obligée d'aller récupérer le ballon. Et finalement, ils vont en bout de ligne. Kingorn qui fait une sorte de réception, qui cadre un petit cadrage débordement au bord de la touche, qui revient dans le trafic, qui passe à Ramos, qui va plonger dans vraiment coin gauche de l'embut bordelais. Et même à la 74e, même alors qu'ils ont une avance considérable et qu'on peut se dire qu'à un moment, il faut lever un peu le pied, ils sont capables d'avoir cette lucidité de toujours aller tenter, de toujours aller récupérer ce ballon qui est dégueulé et qui vont finalement aplatir. Je trouve que c'est quand même assez significatif et ça témoigne bien de ce jeu toulousain qui va se servir de chaque occasion pour aller marquer un essai.
Je croyais que tu parlais du premier drameau, celui qui nous a fait
Non, le doublé.
Hein,
c'est celui du doublé à la 74e.
Mais je pense à celui-là qui était sublime. Hein, Dupont qui met Ntamack dans l'intervalle et le coup de pied rasant. Il sent qu'il a Ramos à droite ou à gauche.
Il ressent. Mais oui, parce qu'il l'a dans le dos, Ramos.
Tiens, je mets le rasant et voilà. Soit on leur mettra la pression, soit avec un bon rebond, ça marque. Et ça a marqué et c'était sublime. Alors, on n'a plus de qualificatifs concernant cette équipe. Voici ce qu'en pense son manager, Hugo Mola.
Le groupe, cette équipe, ce club travaille profondément pour que des jeunes mecs puissent s'épanouir dans ce sport qui reste quand même un sport incroyable et que, évidemment, cette quête de record, cette quête d'exploit, cette quête d'être un peu les premiers dans tout, c'est quelque chose qui les anime. Après, t'as beau vouloir le faire et il faut le réaliser. Ce qui caractérise encore une fois cette équipe, c'est qu'ils m'ont jamais déçu sur ce qu'ils étaient engagés de faire. Ce qui me plaît, c'est le processus. Ce qui me plaît, c'est le chemin. Ce qui me plaît, c'est le contenu. Et après, le résultat, évidemment, quand il est comme celui de ce soir, ben on est ravis. Mais peut-être qu'on a bénéficié aussi d'un Bordeaux très amoindri au regard des deux matchs qu'ils ont joués à domicile et très certainement laissé beaucoup d'énergie sur ces rencontres-là. Et nous, avec un match très moyen la semaine dernière, mais malgré tout en marquant quelques essais, on arrive à clôturer une saison qui reste quand même assez remarquable.
58 joueurs utilisés cette saison. 33 de ces 58 joueurs ont marqué au moins un essai. On a vu les stars toulousaines, mais on a aussi vu les Aynou, Brennan, Verger, Coste. Puis on peut vous citer derrière ceux qui n'étaient pas sur la feuille. Cramon, Fassalele, Barassi, Delhi, Bretière. Question à vous deux. Est-ce que l'équipe 2 du Stade toulousain pouvait être aussi championne?
Ça, c'est dur. Bah, face à l'UBB qu'on a vu hier, peut-être. Je dirais même sans doute.
Il n'y a pas une contagion de confiance entre tous, là.
Bah si, mais c'est ce qui nous ont témoigné toute la saison. On a joué avec l'équipe B, parfois l'équipe C. Ils ont été capables d'aller gagner sur à peu près toutes les pelouses, quelles que soient les absences. Et d'ailleurs, hier, c'est pas comme si on avait un paquet d'avant numéro 1 du côté de Toulouse, parce qu'il y en a quand même des défections de
oui,
poids,
c'était sans
de taille.
Olala, sans bail, sans gelonche.
Sans
bail,
sans méafou, sans gelonche, effectivement. Et malgré ces absences-là, qui feraient mal à beaucoup d'équipes, ils ont mangé l'UBB devant.
C'est vrai qu'il y a des talents, Julien, on en parle, il y a des talents comme Cramon, des talents comme Castro Ferreira, comme Coste.
Qui n'étaient même pas dans le groupe pour Castro Ferreira.
D'ailleurs, Cramon. Il disait Delib, ouais. Castro Ferreira, il y a des joueurs qui ont marqué des points, qui ont marqué, on se rappelle, du petit Coste sur les matchs européens où il avait été étincelant. Après, oui, je pense que tu as raison, il y a une confiance aujourd'hui qui émane de ce groupe-là. Je me rappelle, moi, du Toulouse, du Montpellier-Toulouse, là où les Montpellierains jouaient un match à la mort et que les Toulousains étaient arrivés avec l'équipe C probablement ce jour-là. Et que, ben, un peu à l'image de ce qu'ils font hier, même si Thomas Ramos dit j'ai pas l'impression qu'on ait tout tenté. Il y a cette volonté de jouer, de se faire des passes. Et puis, il y a une telle confiance en fait, dans le potentiel de chacun. Qui se disent que ben, c'est un peu l'image de l'essai d'Entamac quand il tape au pied. Il se dit qu'il va taper et il se dit que forcément quelqu'un y aura derrière. Alors en plus, c'est Ramos, donc là, c'est des joueurs de très très haut niveau. Mais ils savent toujours qu'il y a quelqu'un derrière pour rattraper les coups. Et oui, ils sont remarquables. Alors après, est-ce que l'équipe 2 aurait battu La Rochelle la semaine dernière? J'en suis pas convaincu. Est-ce que l'équipe 2 aurait battu Bordeaux ce week-end? Certainement. C'est aussi une histoire de moment, de confiance, mais. Ce qu'il faut surtout se dire, là, je crois, c'est qu'ils en sont à 2 doublés en 3 ans. Cette génération a 25-26 ans de moyenne d'âge.
On va y revenir, on a dit.
Je me dis, ça va être compliqué de les concurrencer. La 1, la 2, voire la 3.
On va y revenir. Juste, on s'inquiète. J'y pense maintenant. On s'inquiétait aussi de cette saison parce que c'est une saison de Coupe du Monde pour les internationaux avec le nombre d'internationaux qu'ils ont. Et c'est là qu'ils vont en chercher dans leurs ressources. Quoi. C'est vrai, Winnie, après la Coupe du Monde, on s'était dit là, pour les internationaux toulousains, puisque c'est le plus gros pourvoyeur. Et finalement, ça a été l'inverse. Ils ont fait le doublé.
Mais est-ce que c'est justement pas parce que Toulouse est le club qui, depuis de longues années maintenant, est le principal pourvoyeur en équipe de France et qui s'est habitué à faire jouer, à faire monter des jeunes plus vite que la normale, qu'ils ont un centre de formation solide, qui a une vraie passerelle et une vraie fluidité entre et le staff et les jeunes du stand de formation avec l'équipe professionnelle, et que tout ça, ça est en train de porter ses fruits là où certainement que c'est en train d'être fait, je pense évidemment au Stade français puisque c'est un des clubs que je suis et que c'est la promesse de Laurent Labitte depuis qu'il est arrivé en fin d'année dernière, sauf que ça va prendre beaucoup de temps et que Toulouse est déjà en train de récolter ses fruits là et que grâce à ça, ils ont effectivement une équipe 1, 2, 3 performante.
Oui, parce que n'oublions pas, c'est d'ailleurs Hugo Mola l'a rappelé, c'est-à-dire que là on parle de l'équipe première, mais les Crabos sont champions de France, les Espoirs sont demi-finalistes, les Goderman.
Non, les Espoirs sont champions.
Ouais, c'est les Crabos qui vont jouer leur finale.
Ouais, c'est les Crabos, c'est ça. Et il y a une équipe qui a perdu en demi-finale. Oui. Non, mais c'est-à-dire que toutes les catégories de jeunes en plus, ils sont champions. Donc, c'est-à-dire que tu te dis qu'ils ont encore des générations qui arrivent pour prendre la succession de ceux qui vont s'arrêter. Ouais. C'est-à-dire que ils sont. Hugo Mola disait d'ailleurs on a un peu d'avance, il faut qu'on le garde. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'avance sur la concurrence aujourd'hui.
Bon, on va revenir sur cette génération.
Oui, tu iras souvent au Capitole. Je suis désolé de te dire ça, Wilfried. Ah, peux prendre un abonnement chaud, là. Demande un abonnement Capitole, parking tous les ans au mois de juin là, tu vois, parce que tu vas y aller.
On va revenir sur cette génération. Avant, on se penche sur cette malheureuse équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui vivait sa première finale. On va parler des cas de Tamim Founa et Jalibert. Mais avant, ce cauchemar absolu, rien n'a marché. La tristesse du capitaine Maxime Lucu, qu'on a vu parfois en larmes sur le terrain, il est venu comme ses coéquipiers devant les micros après le match. Bravo. Bravo à eux quand même de venir assumer. Il vous explique cette détresse, cette tristesse.
Jouer une finale, tu rêves toute la semaine de lever le bouclier. Voilà, c'était des choses que je ne voulais pas forcément penser parce que c'est se mettre aussi de la pression. Je voulais juste jouer un match et me donner à fond pour essayer d'amener le club de l'Union Bordeaux-Bègles un titre de champion de France. J'ai tout donné et de perdre comme ça, c'est ça qui m'a fait beaucoup mal. Et la déception, ça a été une saison qui a été nerveuse pour beaucoup de choses. Et de finir ici, une finale top 14, ça a été comme ça, c'est difficile à accepter. Donc forcément, il y a beaucoup de déceptions. On a beaucoup donné, j'ai beaucoup donné dans la saison pour vivre une saison comme ça. Il y avait la Coupe du Monde, beaucoup de choses, le 6 Nations. Et aujourd'hui, de s'écrouler face à ce grand Stade Toulousain, c'est difficile à accepter parce qu'on met beaucoup de choses et beaucoup de sacrifices dans la saison pour vivre des belles choses. Et aujourd'hui, j'avais envie d'être récompensé et c'est pas le cas.
Que c'est dur pour Maxime Lucu, Winnie, la saison de Lucu, elle est particulière aussi. Hein.
Bah, déjà, pensant à la Coupe du Monde, on se rappelle que c'était la doublure, évidemment, d'Antoine Dupont avant qu'Antoine Dupont se blesse et qu'il a joué titulaire face à l'Uruguay, que c'était certainement le pire match des Bleus en Coupe du Monde lors de cette phase de poule. On se souvient d'ailleurs de Fabien Galthié très remonté après l'Uruguay. Il est revenu pour l'Italie, puisque entre-temps, il y a eu la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie. Il n'est même pas rentré en quart de finale contre l'Afrique du Sud au moment de l'élimination des Bleus. C'est Antoine Dupont qui revenait à peine de blessure, d'opération, et qui a joué les 80 minutes du match. Derrière, il reprend en club, et c'est certainement la seule respiration pour Maxime Lucu, c'était justement en club. Il y a eu le tournoi derrière, il se fait chahuter, il est sur les talons face à l'Irlande, face à cet énorme échec face aux Irlandais. Pareil en Écosse, on passe ric-rac avec un match plus que moyen de la charnière française. En Italie, ce nul encore jamais concédé face aux Italiens à la maison. Et derrière, deux derniers matchs, c'est Nolan Le Garec qui reprend les rênes à la mêlée et qui fait gagner son équipe. Il faut dire que ça a été certainement la sensation de le jeune demi-mêlée du Racing 92 de ce tournoi cet hiver face au Pays de Galles et face à l'Angleterre. Et donc, il retourne en club. Il a ses succès avec Bordeaux, cette qualification historique en finale. Et c'est hyper cruel pour lui que ce soit justement en club qui se prenne la plus grosse claque après justement de nombreuses déconvenues en équipe de France. Il a été tensé, il a essayé de relever la tête. Et derrière, il se prend cette espèce de claque monstrueuse.
Les réseaux sociaux s'en sont mêlés, jusque dans sa famille. Donc, comme il parle de saison nerveuse, de moments nerveux, il y a des moments très compliqués. Julien, est-ce que tu as eu un moment de la peine pour les Bordelais hier soir On les a vus beaucoup la tête dans l'air, quoi, hein, carrément, vraiment, hein, au sens propre comme au sens figuré. Quoi.
C'est dur, hein. C'est vrai que pour eux, tu te dis.
Non, mais devoir filer ça à 20 minutes de la fin, ça explose et ça ne changera rien.
Perdre une finale de top 14, c'est douloureux. Et puis, nous n'oublions pas que c'est la première défaite de Bordeaux et que même si tout le monde dit qu'ils sont programmés pour y revenir, tu ne sais jamais quand ils reviennent au Stade de France. À part pour Toulouse, toutes les équipes ne savent jamais quand elles vont y revenir au Stade de France. Je me rappelle la première défaite de Montpellier en 2011. Tu te dis, est-ce qu'on va vraiment y revenir? Mais ils avaient perdu pas beaucoup, le Montpellier, en 2011.
Ils sont revenus, mais ils ont mis 11 ans à gagner un titre.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais là, il y a la première défaite, et puis il y a surtout tout qui va être autour, l'humiliation, les chiffres, rentrer dans l'histoire. Ils vont passer des mauvaises vacances. Déjà, quand tu perds une finale, tu passes des mauvaises vacances. Là, ils vont passer des très mauvaises vacances, parce que le retour, il va être dur. Et c'est là où tu as de la peine pour eux, parce que... En fait, même si Yannick Bru l'a répété, il ne faut pas qu'on oublie toute la saison qu'on a fait, tu retiens que le vainqueur. Et cette année, malheureusement, on ne va pas retenir que le vainqueur. Il y a plein de finales où tu te rappelles quelle équipe a gagné, mais tu ne sais plus contre qui, tu ne sais plus quelle manière. La finale 2024, on va tous se souvenir qu'il y avait Bordeaux en face et qu'ils en ont pris 60. Donc, ils vont avoir malheureusement marqué pour eux douloureusement l'histoire.
Alors, le pari d'aligner les incertains, hein, le pilier Tammy Funa et Jalibert à l'ouverture, est perdu, évidemment. Par rapport joueur international, est-ce que l'UBB, on en parle depuis hier soir entre nous, est-ce que l'UBB n'a pas joué à 14 finalement?
Ah bah déjà, on peut le remarquer sur un nombre.
Parce qu'il a fait que des passes, hein.
Il a fait que des passes. Non mais c'est alors quand on regarde les statistiques, il est muet en attaque. Il est à une vingtaine de mètres parcourus, ce qui est très loin des standards de Mathieu Jalibert en top 14, ce qui est très loin de son vis-à-vis Romain de Tamac, qui fait plus du double. En termes de distance parcourue, mais bon, ça c'est le cas de tous les uns face au Bordelais qui était complètement sur les talons. Ça, c'est plutôt logique vu la physionomie du match. En défense, c'est la faillite totale. 4 plaquages, 3 manqués de Mathieu Jalibert hier. On a vu des trous flagrants où on a eu des 2+1 et même à la fin, on a eu un 4 contre 1. Alors, il était déjà sorti à ce moment-là, hein, mais Bordeaux a failli en défense. Il en fait partie. Je me souviens notamment, déjà sur le premier essai, c'est lui que Dupont fixe pour aller trouver l'intervalle et donner le ballon à... Alors, au début, c'est Flamand qui rentre, il me semble, et puis Dupont récupère le ballon et rebelote Il est face à Mathieu Jalibert qui va rafuter. Bon, il n'est pas le seul Jalibert. Je crois qu'il y a d'autres avant. Je ne me souviens plus exactement lesquels. Je crois qu'il y a Maxime Lamotte dans le tas, Jefferson Poirot et Dupont à la sixième minute qui vient aplatir. Mais il était absent. Ils ont effectivement joué, on se l'est dit hier pendant le match, à 14 contre 15. Ils ont essayé de décaler souvent soit Yoram Moefana, soit Nicolas Deporter dans la zone du 10 en défense pour le décharger. Hein, ouais. Mais en fait, en bout de ligne, on se retrouvait toujours avec un joueur en moins et, ils ont payé ça très cash.
Alors, pour comprendre
plus
certaines choses...
Plus je trouve ce choix fou. Ouais.
Oui, mais alors justement, mais passe, on en parle juste après, Julien, mais parce que Mathieu Jalibert est venu nous expliquer...
Tu respectes vraiment pas le conducteur, Julien.
...de cette décision. Non, mais c'est important parce qu'il y a des choses qu'on sait... On va l'écouter parce qu'il y a des choses qu'on apprend un peu après pour mieux comprendre tout ça, notamment avec une autre blessure, celle de Matteo Garcia. Écoutez, Jalibert.
Bah, c'était compliqué parce que pour moi, la saison, elle était quasiment terminée. Matteo a ressenti une gêne... qui pensait l'empêcher de pouvoir postuler pour la finale. Et moi, j'étais de mieux en mieux. Donc voilà, on a pris la décision de prendre le risque. Après, je savais que physiquement, ça allait être compliqué. Au bout de 15 minutes, je sentais déjà des douleurs et des gênes. Donc voilà, pour jouer mon jeu, mettre de la vitesse, c'était compliqué. Mais c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir jouer son vrai jeu et pas pouvoir s'épanouir. Voilà, moi, quand je joue sur le terrain, c'est pour prendre du plaisir. Et c'est vrai que là, c'était compliqué. Du moment où tu ne te sens pas bien physiquement, tu n'es pas bien dans ta tête. Mais voilà, je n'ai pas envie de me trouver d'excuses. C'était un pacte avec le staff que je devais jouer plus en organisation et distribuer. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours plus difficile quand t'es pas bien physiquement.
Julien, c'est important parce que c'est pas qu'un joueur qui se dit tiens, il y a une finale, je vais essayer de la jouer, j'étais blessé de ça. C'est pas que ça, c'est Matteo Garcia était indisponible, donc il a fallu trouver une solution et réaccélérer ce retour de Jalibert qui est pas payant, qui était pas à fond, et il a fait que passer les plats, les ballons, et voilà. Donc c'est important de savoir ça aussi.
Ouais, mais est-ce que si Matteo Garcia avait été apte, ils n'auraient pas tenté le pari Jalibert quand même? Parce que Yannick Bru a dit, pour battre le grand stade toulousain, on a besoin des meilleurs joueurs sur la pelouse.
Et il a parlé de son leadership.
Moi, je trouve ce choix totalement fou. Non, mais je trouve ce choix totalement fou. Plus j'y pense, je me suis concentré sur l'avant-match, sur l'entraînement de Mathieu Jalibert. Et je ne comprenais pas déjà pendant l'entraînement comment il pouvait tenir sa place en finale. Qui plus est contre le Stade Toulousain, ce n'est pas une finale de première série que tu joues avec ton meilleur joueur où tu te dis il va pouvoir distribuer. C'est une folie, je trouve, parce que tout a été plus... C'était déjà simple pour le Stade Toulousain. Tout a été plus simple parce que défendre son Mathieu Jalibert, je pense qu'il n'a pas subi un seul plaquage parce que les Toulousains n'ont pas été le plaquer. Il n'a pas fait passer son temps qu'à faire des passes. Donc Romain Tamac a glissé, Choco Barrès a glissé. Et c'est pour ça qu'au bout des ailes, Penaud et Biel-Biarré se sont retrouvés toujours chassés. C'est un choix fou. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris le pari Lucu avec Les Gourgues à la mêlée. Ce n'est pas possible d'affronter le Stade Toulousain sans être à 100%. Et je pense que Mathieu Jalibert, il n'était même pas à 50%. Je me rappelle la déclaration...
Vous vous rendez compte quand il dit ouais. « Au bout d'un quart d'heure, j'avais des douleurs. »
Quand Hugo Mola, il dit « On ne s'est pas concentré sur Bordeaux, nous, honnêtement. » Et il dit cette phrase, je viens de m'en rappeler, en disant « Nous, de toute façon, les joueurs qui jouent, il faut être à 100% pour jouer dans cette équipe-là. »
Oui,
Pour jouer une finale chez nous, il faut être à 100%. Mais je pense que pour jouer une finale, dans n'importe quel club, il faut être à 100%, à moins d'être... Jalibert, c'est pas Ronan Ongara qui est capable de jouer 10 mètres derrière sa ligne avec un jeu au pied. En plus, les seules fois où il a joué au pied, il a fait des passes à Thomas Ramos. Je veux dire, il n'a pas cette qualité-là pour reculer et avoir une vision. Jalibert, il doit attaquer la ligne, il doit apporter de l'incertitude dans la défense adverse. Et là, il n'a rien fait de ça. Il n'a pas accéléré une fois pendant les 45 minutes de l'échauffement. Comment tu veux tenir une place de top 14 sans accélérer? C'est-à-dire que tu ne peux faire aucun repli défensif. Alors oui, il a pu faire des engagements, mais c'est impensable. Encore, moi, Tammy Ifuna, tu peux tenter le pari, tu te dis que sur une mêlée, même si ça doit piquer, il a pu tenir sa place, même si ça a été très compliqué pour lui.
Oui, la mêlée, pour le coup, ils n'ont pas démérité, ils n'ont pas failli en mêlée.
Il a fait des folies. Et puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas une solution. Je trouve que Maxime Lucu, plusieurs fois cette saison, il a dépanné à l'ouverture. Et ça n'a pas été la catastrophe. Je pense que Lucu à l'ouverture, ça aurait été moins catastrophique que Jalibert hier soir.
Ce que ça dit quand même. Ce que ça dit quand même, puisqu'on parlait de la profondeur de banc de Toulouse, c'est que quand on n'a plus. La doublure de Mathieu Jalibert et quand on a un Mathieu Jalibert affaibli, On n'a plus personne derrière. Là où à
c'est
Toulouse,
la différence entre les deux équipes.
On a un Romain Tamac qui est revenu très fort. Avant ça, on avait un Ramos qui a été remonté en poste de numéro 10, qui était excellent. On peut avoir un Dupont qui est excellent aussi en 10. Et j'en passe. Je suis sûr que toi,
on disait que Raoult hier était le joueur le plus utilisé de l'effectif cette saison.
Voilà. Donc en demi-mêlée, voilà. On a une doublure qui fait largement le taf quand Antoine Dupont n'est pas là. Et de toute façon, à tous les postes, on a l'impression que les trois quarts sont excellents. Et c'est là où on se dit, OK, là, il y a une différence. Et ce vivier-là, il compte. Et Bordeaux en a payé, enfin, en tout cas, a découvert ce que ça voulait dire de ne pas pouvoir jouer affaibli face au Stade toulousain.
Il n'y a pas 60 points d'écart entre les deux équipes, non hein, vous...
Non, bien sûr que non.
On rappelle les 29, 21, 28 euros.
C'est presque anodin.
Il y a 25-3 à l'heure de jeu. L'écart, ouais. C'est 35-10.
Ouais, c'est ça.
À l'heure de jeu,
c'est Thomas Ramos qui va sonner l'espèce de début de comment on peut dire ça. Il a mis le pied sur l'accélérateur et puis les mecs, ils n'ont plus réfléchi. À partir de la 64e, quand Thomas Ramos marque.
Ça s'écroule en face.
Ouais, ça s'écroule. Et eux, c'est ce qu'ils nous disaient. Nous, en face, on avait eux qui s'écroulaient et nous, on était dans l'euphorie totale et donc on a complètement lâché le truc jusqu'au bout du bout du bout puisqu'à la 82e Ange Capozzo est allé mettre cet essai du bout du monde. Voilà.
Que dire quand l'adversaire est tellement au-dessus, être classe et le reconnaître comme l'a fait le manager Yannick Bru.
C'est dur pour les joueurs aussi parce qu'ils méritent pas ça, mais on sait que quand la machine infernale de Toulouse se met à jouer en avançant, c'est très compliqué. En plus, quand ils sont portés par la confiance totale et l'euphorie, ils tentent des passes impossibles qui pour eux sont des passes possibles. Je crois que chaque action on a pris essai dans les 20 dernières minutes. À la mi-temps, on dit aux joueurs que c'est pas nous et qu'il faut redémarrer fort et qu'en marquant une fois, on peut entretenir l'espoir. Ben, du bord du terrain, on souffre avec les joueurs, on se tait, on accepte le camoufler et on se dit qu'on va se servir de ça pour revenir plus fort un jour, mais on est aussi très envieux de ce que nous a proposé Toulouse aujourd'hui. On s'est dit qu'on n'est pas à ce niveau et qu'il y a forcément des choses qu'on fait moins bien qu'eux et que ça doit être un moteur pour la suite.
Yannick Bru qui est arrivé en conférence de presse avec le sac à dos, les cailloux lourds dans le dos là, hein,
et voilà,
dans les coulisses on vous explique qu'il a dit faut faire le métier quoi, faut faire le job, ouais. Donc je suis là devant vous et il a été assez classe voilà, parce que c'est Faut aller affronter les micros, évidemment, après une défaite.
Je l'avais du coin de l'œil, justement, au moment où il s'apprêtait à entrer en salle de conférence de presse. Il était dans ce couloir du Vélodrome. Et juste avant de passer le pas de la porte, on l'a vu s'arrêter.
Il a fait
un
signe de croix.
Et faire un grand... Non, pas jusque-là. Mais faire, en tout cas, prendre vraiment sa respiration, prendre le temps. Et on sentait que c'était vraiment pas évident d'aller se poser devant nous pour expliquer cette défaite.
Gagner. Quand on mène une équipe, qu'on veut gagner, prendre 60 points et venir comme ça expliquer les choses derrière. Voilà. Les conséquences d'une telle raclée la saison prochaine. Je pensais à laisser Dentama qui a pu peser dans les têtes rochelaises longtemps cette saison. Est-ce que l'UBB peut traîner ça
Peut-être pas la
même chose. Non, pas la même chose, mais le coup était terrible pour les Rochelais. Souvenez-vous, les Rochelais en lambeaux.
Oui,
peut-être pas autant en lambeaux, mais pas loin l'année dernière, les Rochelais.
Oui, mais presque finalement, les Bordelais disent hier soir, on préfère perdre de cette manière-là où on n'est pas invité parce que tu te dis que t'as
la
pas
Rochelle
de
l'année dernière.
Je pense que Seitani, doit y penser 20 fois à cette accélération d'Entamac. Et là,
ça
tu te dis que
ça d'avoir la main, une main ou caresser le bouclier comme ça et le voir partir.
Ah oui, non, mais je pense que c'est plus dur.
Les Bordelais n'ont jamais caressé.
Non, c'est ça. Je pense que ça va être dur, eux, de se remettre de cette claque-là, mais ils sont pas invités hier. Donc, tu peux pas avoir de regrets sur la défaite de cette finale-là. Il faut juste se remettre d'aplomb et oublier nos matchs en se disant que...
C'est ce que disait Nicolas Deporter. Il faut oublier, en fait. Ça sert plus à rien. Il n'y a rien à retirer de ce match. Si, on peut s'inspirer de ce qu'a produit Toulouse, mais dans le contenu bordelais, il n'y a rien à retirer. Donc, Nicolas Deporter était, je pense, le seul. Parce que les autres, le discours de Yannick Bru transpiré du vestiaire quand on a eu Maxime Lucu, quand on a eu Mathieu Jalibert en zone mixte, il nous disait... Effectivement, il faut qu'on se relève de ça, il faut qu'on en tire quelque chose pour revenir encore plus fort.
Mais... Ouais, en demi directement, il disait.
Oui, c'est ça aussi, effectivement. C'est
à dire ça.
Ce qu'on sait, ce qu'on a compris, c'est qu'on ne peut pas battre Toulouse en finale si on est passé par les barrages avant. Oui. Il faut qu'on se qualifie en demi direct.
Mais pour vous, l'UBB peut, de manière sûre, on ne sait pas à chaque fois, il n'y a que Toulouse qui est ces dernières années tout le temps, mais être abonné à ces deux premières places ?
Alors, abonné aux deux premières places, et après, on en parlera après. Je ne vais pas manger le conducteur sur la complexité de ce championnat.
Et je crois que c'est le moment. Hein.
Placer le Stade Toulousain dans la hiérarchie. Non, mais il y a forcément beaucoup d'équipes qui vont vouloir rivaliser. Après. Je rappelle, quand on a fait le jeu de Philippe Saint-André sur les nombres, on avait choisi 5 ou 6 Bordelais malgré tout dans les 15. Donc ça veut dire que cette équipe-là, il y a des joueurs qui peuvent titiller sur certains moments la hiérarchie toulousaine. Donc,
et les Bordelais qui ne devraient pas partir de l'UBB de sitôt. C'est aussi ça qui est rassurant.
S'ils arrivent à trouver de la constance, à gagner en expérience, ils peuvent. Ils s'y recrutent intelligemment.
Il y a Perchaud, le pied de Bayonne. Il y a Johnny Gray d'Exeter qui a eu le genou il y a quelques temps, mais qui est une sacrée machine. Le jeune Biarro, Témoumier, il y a quand même une fin de cycle aussi hein, avec les départs de
après
de
eux leur gestion ce qu'il faut qu'ils apprennent Marais. Maintenant à faire eux c'est la gestion des doublons parce qu'évidemment ils font partie comme Toulouse aujourd'hui des équipes les plus sollicitées par le 15 de France et qu'ils n'ont pas forcément la profondeur d'effectif que peut avoir Stade Toulouse et que tu te dis qu'au Bordeaux ils ont peut-être perdu les places dans les deux sur le mois de novembre sur le mois de février-mars là
au tournoi,
ils ont eu beaucoup de monde absent et qu'ils ont perdu beaucoup de points à ce moment là
En même temps leur ligne de trois quarts c'est la ligne de trois quarts du 15 de France donc c'est compliqué effectivement.
Pas tout à fait. Vous diront les trucs.
Cette saison aussi, parce qu'il n'y avait pas Ntamack, il n'y avait pas Dupont.
Oui.
Allez, à part Ramos.
Non, mais on parle l'année prochaine. On verra ce que fera Dupont aussi, parce que Dupont doit faire un petit break aussi à un moment. On nous a dit Didier Lacroix cet hiver.
Peut-être pas de là à rater ce tournoi de
2025. Comme il y a des
gens qui
vont à 13 l'année prochaine.
Non, non, mais il parlait de peut-être comme Grégory Aldrit en début de saison. Là. On suivra ça. Mais Yannick Bruet était plus vite que prévu, finalement. C'est son an 1 à Yannick Bruet. Donc, même s'ils avaient fait 3 demi-finales avant avec des staffs avec un staff différent. Mais voilà, finale pour la première année, c'est aussi...
Mais c'est dur après de confirmer. J'en reviens au MHR Fabien Galthié, l'an 1 de Galthié. Alors, c'est encore plus un accident qu'ils vont en finale. Et après, Fabien n'est plus jamais arrivé en finale avec cette équipe-là. Là, le plus dur pour Yannick Bruet, c'est confirmer et garder ce qu'il a réussi à inculquer à ses joueurs pour la saison prochaine.
Voilà pour les Bordeaux-Bègles qui partent donc en vacances. Enfin, tous d'ailleurs, hein, sauf Antoine Dupont, évidemment, qui va faire les JO.
Il y a quelques jours de repos quand même.
Ouais, on revient quand même sur les Toulousains, on reprend le fil conducteur comme c'était prévu, Julien Landry.
J'ai pas grillé, tu vois,
c'est vrai.
Reparler de ces. Non, mais tu avais envie de trois fois t'essayer. Pour reparler de ces gloutons, ces piranhas, les insatiables, cette génération remporte un 4e bouclier de Brennus plus 2 Coupes d'Europe. 2e doublé. Est-ce la meilleure génération de l'histoire du Stade Toulousain? Attention, les questions. Avant de répondre, on a posé la question à Thomas Ramos.
C'est pas forcément à moi de le dire. Je sais pas, aujourd'hui on fera les comptes quand on aura fini notre carrière et quand cette génération s'arrêtera. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours entraîné par des mecs qui ont un peu plus gagné que nous. On se rapproche maintenant, mais il nous tarde en tout cas de pouvoir les titiller d'encore plus près. Le groupe est jeune. Ouais, le groupe est jeune. Mine de rien, la moyenne d'âge c'est 25-26 ans. Quand on voit tous les jeunes joueurs qui arrivent cette année, c'est pas anodin non plus. Je crois que ce groupe n'a pas forcément pour le moment envie de se fixer de limites. Je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps pour le réaliser, mine de rien, parce qu'un deuxième doublé, c'est pas rien. Je ne doute pas que le staff nous refixera des objectifs. À nous d'être sérieux sur les saisons qui arrivent pour continuer à faire ce pour quoi on s'entraîne, quoi.
Ils veulent protéger ces titres, nous disait Ramos, il va falloir aller les chercher. Pour la précision, quand il parle des coachs, il dit on va les titiller, on sait que c'est Jean Bouillot et Clément Poitronneau, donc c'est 4 boucliers et 3 Coupes d'Europe. Ils n'en sont pas loin, il leur manque une petite Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils vont faire exploser les scores?
C'est la plus grande génération du Stade Toulousain, sans contestation possible.
Mais c'est surtout qu'elle n'est pas terminée.
À mes yeux, il n'y a pas débat parce que... Parce qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain.
Oui, celle de Bouillot de Poitronneau, c'était.
Oui, mais est-ce que la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain, ils ne peuvent pas gérer au mois de mars en se disant ouais, c'est pas grave si on perd 3-4 matchs dans la saison.
L'adversité est bien
plus forte. On s'en fout, on n'y sera pas, on y sera quand même dans les deux et on y sera. Là, il y a 26 matchs où il y a la guerre, 26 matchs de top 14 cette saison. Il n'y a pas un match où tu peux lâcher. Si tu lâches, t'exploses aujourd'hui dans le top 14. Donc, c'est-à-dire que tes mecs, tu les as sur le pont toute la saison. la Coupe d'Europe, elle s'est complexifiée avec l'arrivée des Sud-Africains, l'émergence des Irlandais qui ne font plus que ça, parce qu'au début, malgré tout, les provinces irlandaises et l'Angleterre n'étaient pas au niveau. Aujourd'hui, il y a 33 matchs où ils font la guerre, 33 matchs cette saison. Et on en parlait ce matin dans des statistiques. Kinghorn, il est invaincu. Antoine Dupont, oui. C'est 27 matchs à 15, 24 victoires. J'aimerais
Kinghorn
bien savoir.
N'a pas perdu. Cette année,
ouais, j'aimerais bien savoir combien Frédéric Michalak perdait de matchs par saison si on compare Michalak et Dupont, les deux meilleurs joueurs. Michalak, il devait perdre une dizaine de matchs par saison. Dupont, il a perdu 3 matchs cette saison et en comptant le 15. Donc c'est stratosphérique. Ils sont incomparables parce qu'ils font la guerre tout le temps. Les équipes, elles sont armées partout et je trouve que c'est incroyable ce que fait le Stade Toulousain aujourd'hui.
Et puis tu l'as cité, ouais. Hein, Wilfried, mais derrière il y a un vivier qui, en fait, cette génération, alors je sais pas si elle s'arrête à un moment, mais
26 ans quoi, la moyenne, ils ont pas des trentenaires comme les Sudaf,
les Brennan, les Polkost, les Castro Ferreira et j'en passe. Ces jeunes-là, ils sont encore en train de s'agréger à cette génération dorée qui entoure les Dupont, Tamac, Marchand, Baye. C'est pas fini, en fait. On a l'impression que c'est encore une météorite qui va grossir.
Et donc, si on compare avec la dernière, si on compare avec la dernière équipe qui avait fait un doublé, le RCT en 2013, ouais. C'était une génération vieillissante. Ils étaient tous sur la jante,
ouais,
mais
c'était quand même
les Wilkinson,
gloires,
c'était
ouais.
les Gito, c'était
ça
les
fait 13, 14, 15 en
oui,
titre de champion de France et de.
C'est ça. Mais
de
elle était vieillissante. Ils avaient 30, 32, 33 ans, 35 ans, voire même pour certains. Et ils avaient quand même réussi à gagner. C'est ça. Là, il y a 25 ans, tu te dis qu'ils en ont pour 7-8 ans, plus toute la génération qui arrive. Non, mais tu peux estimer que là,
non,
il y en a.
Non, je pensais
aux
supporters des autres clubs.
Oui. C'est pour ça que ça t'embête qu'on veut partager ? Ça t'embête, Wilfried ? Ça t'embête ?
Non, mais je dis ce que. Julien me dit ça parce qu'on a dit à Thomas Ramos. J'ai dit à Thomas Ramos, mais ça va durer encore longtemps. Non, mais c'était dans le sens, ta question, ouais. C'est jamais fini, quoi. Et c'est vrai
oui,
que Thomas Ramos m'a dit.
C'était que dans ce sens-là.
Enfin bon. Et donc,
si tu peux aller à La Rochelle une fois de temps en temps, le bouclier, on serait pas con.
Winnie, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a une génération qui, au niveau du jeu, est stratosphérique, avec des joueurs charismatiques, que ce soit en bleu ou à Toulouse. Il y a tout un combo de tout ça aussi autour de cette équipe.
Bah oui, c'est une
génération. Il y a la note artistique, quoi, en fait. Avec.
Ouais, non, mais c'est une génération qui se pose même pas la question En fait, ils se posent pas de questions, tout simplement. Ils ont toujours performé tous ensemble et c'est à la fois la génération dorée de Toulouse et à la fois la génération dorée du 15 de France. Cette génération qui a fait renaître le 15 de France sous la houlette de Fabien Galthié, évidemment avec en tête de pont Antoine Dupont. En fait, il y a juste pas photo ni en club, ni en équipe de France. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on se dit que c'est ce squelette-là, il est beaucoup trop solide pour être défaillant. Il est beaucoup trop solide pour être contesté par d'autres clubs, par d'autres joueurs. Et ça va être une sacrée page qui va se tourner quand cette génération-là sera sur la fin. Je pense toujours, moi, aux joueurs de tennis, quand on annonce la fin des Nadal, quand on annonçait la fin de Federer, quand on annoncera un jour la fin de Djoko. Pour moi, c'est un peu du même Maccabi. Quand on annoncera la fin de cette génération, ce sera quelque chose.
Julien, c'est des vecteurs de communication du rugby. Et Dupont, Tamac. C'est toujours plus. Là. Même quand on se creuse la tête, quand on en parle entre nous, on trouve des trucs en plus. Quoi. C'est des images, des symboles.
Oui, et puis on en parlait ce matin, c'est que en plus aujourd'hui là, ils biberonnent des générations entières d'enfants qui se mettent au rugby, qui ont les maillots du Stade Toulousain là quand ils vont aller dans les clubs de rugby et qui ont envie que d'une chose, comme Antoine Dupont quand il a commencé le rugby, c'est jouer au Stade Toulousain. Là, ils sont en train en plus de préparer le recrutement pour les années à venir parce que là tout le monde a envie d'aller au Stade Toulousain. On va en parler, mais Movaca qui prolonge jusqu'en 2029, qui était ciblé par plein de clubs, il y a le petit Cramon qui pousse derrière, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont les deux talonneurs de l'équipe de France, plus Cramon qui serait à mon avis titulaire dans 12 des 14 clubs du top 14. Et bien c'est-à-dire que là tu te dis qu'ils ont trois talonneurs, qu'est-ce que va faire Cramon ? Mais est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il se dit à Toulouse je vais quand même gagner, je vais quand même remplir mon armoire à trophées. C'est-à-dire qu'en plus pour faire le recrutement, t'as pas besoin de vendre, de te dire
c'est le choix,
je
non, mais
500
mais je joue
euros
pas les matchs
plus,
qui comptent à la fin. Après,
oui, mais
les Rottières, les Barassis, les deux Libes qui sont sur le bord de touche à la fin, ils sont très talentueux. Comme pareil, la même chose que Cramon, serait titulaire ailleurs, mais sont titrés,
mais ne joue pas les matchs qui comptent. Ça doit être un casse-tête aussi. Hein, de... oui, ou alors, il faut être ambitieux et de se faire une place à Toulouse, et c'est ce qu'ils veulent certainement. Mais c'est pas évident aussi. Justement, on parle des hommes. Vos hommes forts de la saison à Toulouse, ou allez, sortez-moi un ou deux si on doit choisir, c'est renoncer.
Jack Willis.
Je sais que Julien va dire
Jack Willis, incontestablement.
Ah. Aussi.
Blair Kinghorn, incontestablement depuis son arrivée cet hiver. Je pense que il réussir à concurrencer Thomas Ramos en 15 au point d'être titulaire en 15 en Coupe d'Europe, je pense que c'est quand même très très fort au Stade Toulousain. On vient d'en parler justement, se faire sa place. Le poste de numéro 15, Thomas Ramos lui-même, il a bataillé pour se faire cette place-là. Et maintenant qu'on arrive à le détrôner sur certains grands matchs comme le fait Blair Kinghorn, c'est quand même assez colossal.
Après, Jack Willis, c'est une pioche incroyable.
Mais c'est
le
temps. Pour moi, si ça n'avait pas été Antoine Dupont, ça aurait été Jack Willis, l'homme du match hier.
Il est incroyable, il avait été énorme au Leinster. C'est incroyable, c'est encore une pioche. Et voilà, et en plus, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en plus, quand ils recrutent des jokers comme ça, en se disant, bon, allez, on va prendre un joueur comme ça. Ils se plantent jamais en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un accident, en disant, oh, ils sont nuls, ils se sont plantés, c'est une catastrophe. Mais non, même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Et après, on est obligé de parler d'Antoine Dupont. Je trouve que Hugo Mola, il lui a rendu le plus bel hommage hier soir, en le comparant quasiment à Federer, à Tiger Woods, à Michael Jordan, en disant qu'il y avait des joueurs qui transformaient leur sport. Mm. Et qu'Antoine Dupont était en passe de transformer son sport, c'est-à-dire pas de transformer le Stade Toulousain, de transformer son sport. Et je crois c'est que c'est ça. C'est que on en parlait une fois au podcast où je disais que c'était peut-être le plus grand joueur de l'histoire, déjà Antoine Dupont. Et Christophe disait, ouais, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde, on peut pas le dire. Bah, je continue à dire que c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire qu'on ait vu, parce que il fait des choses que personne n'a jamais fait dans ce sport-là. D'aller mettre la tête dans les avants, l'essai qui marque avec le petit coup de pied par-dessus. Et il fait tout très bien. Alors hier soir, il a fait quelques scories. Alors on est content parce qu'on se dit qu'il est quand même humain et qu'il ressemble à d'autres joueurs de top 14. Mais il fait des choses que personne d'autre ne sait faire. Et pour moi, c'est le plus grand qu'on ait jamais vu.
Moi, j'ai trouvé Flamand stratosphérique sur la finale.
Impérial en l'air.
Dans la saison. Roumat est un poisson dans l'eau dans ce jeu toulousain. Il est
encore une bonne pioche, tiens. Ils ont pris Roumat. Titulaire en 8.
Et il y a un homme qui m'a beaucoup marqué cette saison, qui était absent hier, c'est Emmanuel Méafou. Qui a passé un palier, qui est devenu international et qui a fait une énorme saison. Et évidemment, on ne peut pas enlever Dupont, évidemment, comme tout le monde. Mais...
Et puis Ntamack, malgré tout, qui est
le retour très fort de Ntamack. Blessure,
et qui hier, il est quand même énorme. Les Argentins, Choco Barres Malia.
On peut tous les citer, en fait.
On n'a pas été très objectifs hier. Quand on a fait nos 10 Toulousains et qu'on a sauvé 5 Bordelais, en fait, je me dis qu'on n'a pas été très objectifs. Je pense qu'on n'aurait pu être que les Toulousains, finalement.
Ouais,
cette
pas loin.
Mais on ne peut qu'applaudir des deux mains. Cette performance toulousaine, ce nouveau doublé toulousain.
Qu'est-ce
et les autres peuvent se gratter la tête.
On a fait un doublé.
Tu vas l'entendre ce soir. C'est vrai que le challenge, la mission des autres clubs du top 14, c'est d'essayer de mettre fin à cette. Enfin, pas fin, mais de ralentir cette hégémonie. Et ce ne sera pas facile sur les années d'après. Bon, on finit juste en disant qu'Antoine Dupont, tout le monde est en vacances sauf Antoine Dupont, Winnie.
Exactement, il va rejoindre. Alors lui, il a quelques jours de repos pendant que les Bleus du 7, puisqu'évidemment, il va faire les Jeux.
Comme disait Eric Dimeco, il ne fait pas le Tour de France, par contre, c'est trop tard. Ça ne connaît pas le départ du Tour de France aujourd'hui.
Quoi que peut-être une étape ou deux pour dépanner, quoi, tu vois. Si Julien Alaphilippe ne se porte pas, Alaphilippe, il n'est même pas, non ? Je me souviens même plus, moi qui suis
non, il est pas
sur
du
tour, tout. Ben voilà. Il peut remplacer Alaph pour avoir un autre chouchou du tour. Voilà. Non, Antoine Dupont, il a rendez-vous avec les Bleus du 7 le 8 juillet, très précisément. En attendant, il va rentrer un peu chez lui, il va se reposer pendant que les Bleus sont en autonomie. Et puis, ils ont rendez-vous au village olympique autour du 20-22 juillet. Et puis ce sera le grand début. Ils vont ouvrir le bal comme les footballeurs des Jeux avant même la cérémonie d'ouverture le 26. Ils entameront le 24 juillet.
Tu dis qu'il a tout pour être champion olympique en plus.
Franchement, c'est pas que je mets un billet sur une médaille d'or, c'est que je mets un billet sur Dupont pour qu'il aide les Bleus à remporter cette médaille d'or. Parce que je pense que les Bleus ne remporteraient pas la médaille d'or. Je le dis avec l'honnêteté, alors que quand on suit les Bleus du 7 et qu'on apprend à aimer tout ce groupe-là, c'est difficile de dire ça.
Qui font des efforts depuis longtemps.
Qui font des efforts depuis au moins 3 ans, depuis le fait que quand ils ne sont pas qualifiés pour Tokyo, c'était hyper dur. Ils ont énormément travaillé, mais je pense que sans Antoine Dupont, ces Bleus-là ne gagneraient pas la médaille d'or, alors qu'avec Antoine Dupont, je peux mettre un billet franchement avec beaucoup de confiance du fait que le 27 juillet, on soit champion olympique de rugby à 7.
Antoine Dupont, il a fait 3 tournois avec l'équipe de France à 7, ils en ont gagné 2. Tu te dis quand même, c'est déjà pas mal.
C'est ça. Et puis le troisième, une petite médaille de bronze pour commencer,
petite
pour se mettre, tu vois, pour se mettre en jambes. Non, c'est pas mal. Par contre, j'aimerais noter une chose, parce que j'ai entendu deux fois ça hier, tu en parlais déjà quand tu commentais le match, et là, je l'entends dans le podcast. Toi, tu dis piranha et pas piranha.
Parce que oui, un peu
d'accord.
Moi, en Titi, j'ai failli te dire, tu as dit du même Maccabi. J'ai failli Haïfa. Winnie nous a fait quand même, c'est du même Maccabi. Du même Maccabi, genre Maccabi Haïfa.
Allez, règlement de compte, Maccabi,
du même Maccabi.
Et toi, ah oui, Winnie, toi, Maccabi. Des fois, hein, quand t'es en retard, qu'on t'attend, on te dit rien.
On t'attend, voilà, on passe ton temps à t'attendre.
Ah, les gars, ils sont graves, n'importe quoi. C'est moi qui vous ai attendu tout le week-end, je vous rappelle.
Du coup, c'est comment ça?
Oui, c'est vrai. Allez,
on
c'est
s'arrête
bon.
Là, parce que c'est les auditeurs du podcast, je vais dire, qu'est-ce qu'ils
ils
nous racontent.
Ils sont complètement tarés.
Merci tout le monde, merci à vous, merci, c'était une très
belle
saison.
C'est les vacances du podcast?
Merci.
Non, le podcast continue.
Et
alors, le podcast continue chaque semaine.
Vacances du podcast, alors.
Ah, toi, t'es en vacances du podcast. Bah, ouais. Bonnes vacances,
Julien. Ça va continuer, oui, elle va bosser aussi sur le podcast. Oh. Ouais. Moi, je vais aller un petit peu en vacances.
Ah, bonnes vacances, Wilfried. Bonnes vacances, Julien.
Merci. Ouais, d'abord, merci. Je dois aller au Capitole. merci à Arthur Robert, à Roxane Lacousca, Kylian Vérov, qui sont aux manettes de ce podcast que vous téléchargez chaque semaine de plus en plus nombreux. Merci à vous. Vous pouvez dire merci aux gens qui téléchargent ce podcast,
merci.
Julien Winnie, quand même.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Salut.
Toi qui es en train de courir, ou toi qui es en train de faire la cuisine, on se demande toujours où c'est que vous nous écoutez. Voilà, en train de faire du jardinage peut-être,
par
de trier les poteaux.
Oui, c'est vrai ça. Hein.
Ouais. Oui.
En train de chasser le hérisson, tout ça. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça.
Bonne chance pour le hérisson. Et on est très content de vous avoir dans ce podcast. On vous embrasse très fort. Et on se retrouve très vite avec des hérissons ou pas. Mais voilà, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.
Salut. Ciao.